Chapitre 45. Plaine d'Ilium, Ilium. J'éprouve un vague remords de ne pas retourner chercher le petit robot, mais le temps presse. Les gardes me conduisent à un Achille occupé à se vêtir pour le combat, entouré des chefs qu'il a hérités d'Agamemnon. Odysseus, Diomède, le vieux Nestor, le grand et le petit Ajax, bref, l'équipe habituelle, exception faite des Atrides, Agamemnon et Ménélas. Est-il possible, comme l'affirmait Arès, qu'Achille ait massacré le roi Agamemnon, frustrant ainsi son épouse Clytemnestre de sa sanglante vengeance et une centaine d'auteurs dramatiques d'un sujet en or? La malédiction qui frappe Cassandre vient-elle d'être subitement levée?
« Qui es-tu, au nom d'Hadès ?»
gronde le tueur d'hommes, Achille au pied rapide, lorsque le sergent m'introduit auprès de lui. Je me rends compte pour la énième fois que ceux qui m'entourent ne voient que ce vieux Thomas Hockenberry, un type cradingue et mal rasé, aux épaules voûtées, qui n'a plus ni sa cape, ni son épée, ni son harnais de lévitation, un fantassin mal fagoté dans son plastron de bronze terni. Je suis l'homme que t'envoie ta mère, la déesse Thétis, afin de te guider jusqu'à Hector, puis jusqu'à la victoire sur les dieux qui ont tué Patrocle, déclarai-je. Héros et capitaine sursautent en entendant ce discours. De toute évidence, si Achille les a informés de la mort de Patrocle, peut-être ne leur a-t-il pas exposé ses intentions vis-à-vis d'Olympos. Ils s'empressent de m'entraîner à l'écart, loin des oreilles curieuses des guerriers fatigués.
Comment puis-je être sûr que tu es bien celui dont m'a parlé ma mère, la déesse Thétis?
Demande le jeune demi-dieu. Il semble avoir pris un coup de vieux depuis la nuit dernière, comme si on avait ciselé de nouvelles rides sur son visage.
« Je te le montrerai en te conduisant là où nous devons aller, » répliquai-je.
« À Olympos !»
Il y a de la démence dans ses yeux.
« Chaque chose en son temps, » murmurai-je.
« Tout d'abord, ainsi que l'a dit ta mère, tu dois faire la paix avec Hector, faire cause commune avec lui. » Achille grimace et crache dans le sable.
« Je suis incapable de faire la paix aujourd'hui. C'est la guerre que je veux. La guerre et le sang des dieux. »
« Pour affronter les dieux, tu dois d'abord mettre un terme à ce conflit insensé avec les héros de Troie. »
Achille se retourne pour désigner le champ de bataille au loin. Je vois les drapeaux achéens qui ont franchi les tranchées défensives et flottent au-dessus d'un terrain occupé la veille par les Troyens.
« Mais nous sommes en train de les battre! Pourquoi devrais-je faire la paix avec Hector alors que dans quelques heures, je cueillerai ses tripes à la pointe de ma lance ?»
Je hausse les épaules. « Comme il te plaira, fils de Pélée.
« Je suis envoyé ici pour t'aider à venger Patrocle et à récupérer son corps pour célébrer dignement le rituel funéraire. Si telle n'est plus ta volonté, je prends congé. »
Et je lui tourne le dos pour m'éloigner. Achille me saute dessus, me jetant à terre et dégainant son poignard avec une telle vitesse que je serais incapable de le neutraliser d'un coup de taser, même si ma vie en dépendait. Ce qui est sans doute le cas, car voilà qu'il plaque sa lame sur ma gorge.
« Tu oses m'insulter, moi ?»
Je m'exprime sans trop bouger, redoutant de voir mon sang couler.
« Je n'insulte personne, Achille. Je suis envoyé ici pour t'aider à venger Patrocle. Si tel est ton souhait, fais ce que je te dis. »
Achille me fixe quelques instants, puis se relève, rengaine son couteau et me tend la main pour m'aider à me remettre debout. Odysseus et les autres capitaines observent la scène à 10 mètres de là, dévorés par la curiosité.
« Quel est ton nom ?» demande Achille.
« Hockenberry, » dis-je en m'époustant le derrière et en me palpant la gorge.
« Fils de Duan, »
ajoutai-je, me rappelant l'usage.
« Un nom bien étrange, » marmonne le tueur d'hommes. « Mais nous vivons des temps étranges. Sois le bienvenu, Hockenberry, fils de Duan. »
Il me tend la main et m'agrippe l'avant-bras avec une telle force que le sang cesse de couler dans mes veines. Je m'efforce de lui rendre l'appareil. Achille se retourne vers ses capitaines et ses subordonnés.
« Je m'habille pour la guerre, fils de Duan. Lorsque j'aurai fini, je t'accompagnerai jusqu'au royaume d'Hadès si nécessaire. »«
Ilium suffira pour le moment. »«
Viens faire la connaissance de mes camarades, de mes généraux, maintenant que j'ai vaincu Agamemnon. »
Il me conduit vers Odysseus et les autres. Je lui pose alors la question qui me brûle les lèvres. Agamemnon est-il mort? Et Ménélas? Achille secoue la tête d'un air sombre.
Non, je n'ai point tué les Atrides, bien que j'aie triomphé d'eux ce matin, l'un après l'autre. Ils sont couverts de plaies et de bosses, mais ils survivront. Asclépios est en train de les soigner, et quoiqu'il m'ait juré allégeance pour que j'épargne leur vie, jamais je ne leur accorderai ma confiance. »
Il me présente ensuite Odysseus et tous les autres héros que j'ai passé plus de 9 années à observer. Chacun d'eux m'empoigne l'avant-bras pour me saluer, et lorsque j'en ai fini avec l'état-major dans son ensemble, j'ai la main et le poignet tout engourdis.
« Divin Achille, déclare Odysseus, tu es devenu notre roi ce matin. Nous t'avons juré allégeance et avons fait serment de te suivre jusqu'à Olympos si nécessaire pour revendiquer le corps de notre camarade Patrocle, victime de la traîtrise d'Athénée, si incroyable que cela paraisse. Mais je me dois de te dire que tes guerriers comme tes capitaines sont affamés. Les Achéens doivent manger. Ils ont affronté les Troyens durant toute la matinée, après une nuit sans sommeil ou presque, réussissant à repousser les forces d'Hector loin de nos nefs noires, de nos murailles, de nos tranchées. Mais les hommes sont prêts de succomber à la faim et à la fatigue. Que Taltibios ici présent égorge un cochon sauvage pour les capitaines pendant que toi et tes hommes feront une pause et Achille se dresse face au fils de Laerte.
« Manger ! As-tu perdu la raison, Odysseus ? Je n'ai aucune envie de manger aujourd'hui ! J'ai faim de massacre ! J'ai soif de sang ! Je veux savourer les cris et les gémissements des hommes mourants et des dieux suppliciés !»
Odysseus incline légèrement la tête.
« Achille, fils de Pélée, ô toi le plus grand d'entre les Achéens, tu es plus valeureux que moi, plus habile que moi dans le maniement de la lance. Mais peut-être suis-je supérieur en sagesse, endurci que je suis par mes années d'expérience et d'épreuves. Que ton cœur écoute mes paroles, ô mon roi. Ne laisse pas tes loyaux guerriers, Achéens, Argiens et Danaïens, attaquer Ilium le ventre vide en cette journée qui s'annonce fort longue. Encore moins porter la guerre en Olympos alors qu'il meurt de faim. »
Achille observe une pause avant de répondre. Odysseus interprète son silence comme un encouragement à développer ses arguments.
« Souhaites-tu que tes héros meurent pour toi jusqu'au dernier, ô Achille ? Qu'ils vengent Patrocle en périssant non sous les coups des dieux immortels, mais sous ceux de la faim ?»
Achille pose sa robuste main sur l'épaule d'Odysseus, et je constate pour la énième fois à quel point le tueur d'hommes est plus grand que le tacticien Courteau.
« Odysseus, sage conseiller, ordonne à Taltibios, héros d'Agamemnon, de tuer le plus gros cochon qu'il trouvera et de l'embrocher au-dessus du feu le plus vigoureux que tes hommes pourront faire. Qu'il égorge ensuite autant de cochons qu'en exigera l'appétit des troupes achéennes. Je vais demander à mes loyaux myrmidons de superviser le festin. Mais qu'aucun sacrifice ne soit offert aux dieux en ce jour. Qu'aucun morceau de choix ne soit jeté dans les braises. Aujourd'hui, les dieux n'auront droit qu'aux pointes de nos lances et de nos épées. Nous ne leur laisserons même pas les abats. »
Il regarde autour de lui et élève la voix afin d'être entendu de tous les capitaines.
« Mangez de bon appétit, mes amis. Nestor, envoie tes deux fils Antiloque et Trasimède, ainsi que Mégès, fils de Philée, Mérion et Thoas, et Lycomède, fils de Créon, et aussi Mélanippe, annoncer la venue du festin jusqu'à l'avant-garde, afin que nul guerrier achéen ne soit privé de viande et de vin au déjeuner. Je vais me vêtir pour la bataille et me retirer en compagnie d'Auchenberry, fils de Duan, pour me préparer à la guerre contre les dieux. »
Achille se retourne et entre dans la tente où il s'habillait lors de mon arrivée, me faisant signe de le suivre. En attendant qu'Achille se soit vêtu pour la bataille, je repense à mon épouse Suzanne et au temps qu'il lui fallait pour s'habiller en vue d'aller à un dîner où nous étions déjà en retard. On ne peut rien faire pour rater le processus. Il faut se contenter d'attendre. Mais je ne cesse de consulter mon chronomètre, obnubilé par le petit robot que j'ai abandonné, Manmut, il s'appelle Manmut, et me demandant si les dieux l'ont déjà oxy. Mais il m'a dit de revenir le chercher au bord du lac lorsqu'une heure se serait écoulée, et il me reste encore plus de 30 minutes de battement. Mais comment puis-je retourner à Olympos sans le casque d'Hadès pour me protéger ? J'ai obéi à une impulsion en donnant cette cagoule de cuir au petit robot, une impulsion que je risque de regretter si jamais je suis aperçu par les dieux. Je tente de me consoler en me disant que de toute façon, Aphrodite me repérera si je retourne à Olympos, casque ou pas casque, de sorte que je ne devrais pas traîner pour retrouver Manmuth et filer à l'anglaise. L'important, toutefois, c'est ce qui est en train de se passer ici et à Ilium. Que se passe-t-il ici? Eh bien, Achille s'habille. Je remarque qu'il serre les dents pendant qu'il se vêt pour la bataille, ou plutôt pendant que ses serviteurs, ses esclaves et ses écuyers l'aident à se vêtir. Aucun chevalier du Moyen-Âge n'a traité ses armes et son armure avec autant de respect et de cérémonie qu'Achille, fils de Pélée, le fait en ce jour. Il commence par attacher sur ses jambes des jambières finement ouvragées, je repense au protège-tibia dont je me caparaçonnais quand je jouais au baseball, de splendides accessoires forgés dans le bronze plutôt que moulés dans le plastique, avec des couvre-chevilles d'argent. Puis Achille recouvre son torse d'un plastron et passe son épée par-dessus son épaule. Également forgée dans le bronze, cette épée est plus étincelante qu'un miroir, plus affûtée qu'un rasoir et pourvue d'une garde cloutée d'argent. Peut-être parviendrai-je à la soulever, à condition de la prendre à deux mains et de bien me camper sur mes jambes. Peut-être. Puis il prend son gigantesque bouclier circulaire, fait de deux couches de bronze et de deux d'étain, métal fort rare en ce temps, séparé par une couche d'or. C'est une véritable œuvre d'art, d'une beauté éblouissante, si célèbre qu'Homère lui a consacré un long passage de l'Iliade. Ce bouclier a par ailleurs fait l'objet de maints poèmes, mon préféré étant celui signé Robert Graves, et à ma grande surprise, je ne suis pas déçu en le découvrant de visu. Qu'il me suffise de dire qu'il est orné de cercles concentriques servant de support à des images illustrant les idées de la Grèce antique, avec la rivière Océan parcourant son pourtour, avant de traverser la cité en paix et la cité en guerre près du centre, où figurent de superbes représentations de la terre, de la mer, du soleil, de la lune et des étoiles. Ce bouclier est si poli que même dans la pénombre de cette tente, il étincelle à la façon d'un héliostat. Finalement, Achille soulève son lourd casque et se le pose sur la tête. Selon la légende, c'est Héphaïstos en personne qui en a conçu et réalisé le cimier, un accessoire prisé des Achéens tout autant que des Troyens. Et il est vrai que les grandes plumes dorées qui ornent sa crête se meuvent comme des flammes lorsque s'avance Achille. À présent armé de pied en cap, exception faite de sa javeline, Achille s'exerce à la façon d'un joueur de football américain, s'assurant du bon placement de ses épaulettes. Le tueur d'hommes pivote sur ses talons pour vérifier que ses jambières et son plastron sont correctement ajustés, mais pas au point de le gêner dans ses mouvements. Puis il fait quelques pas en courant pour voir si son casque et ses sandales restent bien en place. Finalement, Achille soulève son bouclier, passe la main sur son épaule et dégaine son épée avec une telle vivacité, une telle souplesse, qu'on jurerait qu'il a fait ça toute sa vie. Il rengaine son épée et dit « Je suis prêt, Auchenberry !» Les capitaines nous suivent tandis que je conduis Achille sur la plage où j'ai laissé la carapace d'Orphée. Les sentinelles sont restées à l'écart du gigantesque crabe, lequel flotte toujours dans l'air grâce à mon harnais de lévitation, ce que les badauds n'ont pas manqué de remarquer. J'ai décidé de jouer au magicien afin d'impressionner Odysseus, Diomède et les autres capitaines et de gagner un peu de leur respect. En outre, je sais que les Achéens dans leur ensemble, loin d'être aveuglés par la rage comme l'est Achille, ne sont pas très chauds à l'idée de combattre des dieux immortels qui ont de tout temps eu droit à leur vénération, à leur obéissance et à leur sacrifice. En théorie, tout ce que je pourrais faire pour renforcer l'emprise d'Achille sur ses troupes me sera également profitable. « Agrippe mon avant-bras, fils de Pélée, » dis-je à voix basse. Dès qu'Achille s'est exécuté, je tourne le médaillon de ma main libre et nous disparaissons. Hélène m'a donné rendez-vous chez Hector, dans l'antichambre de la nurserie du petit Scamandrios. Comme je connais déjà les lieux, je n'ai aucun mal à les visualiser, et nous 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 avons un peu encore de la relève de la garde sur les remparts. La pièce où nous nous trouvons est pourvue d'une fenêtre ouverte, permet de constater que nous sommes en plein centre d'Ilium. Le brouhaha qui parvient jusqu'à nous, le fracas des carrioles tractées par des bœufs ou des chevaux, les cris des marchands, le murmure incessant des piétons foulant les pavés, et même rassurant. Achille ne semble nullement déconcerté par la téléportation quantique. Je me rappelle que la vie d'un homme est imprégnée de magie. Il a été élevé par son sang. Alors qu'il se trouve au cœur même du repère de ses ennemis, il se contente de poser une main sur son épée, sans toutefois la dégainer, et de m'adresser un regard qui signifie « Et ensuite ?» Ensuite, nous entendons un homme pousser un cri horrible dans la nurserie. Je reconnais la voix d'Hector, que je n'ai cependant jamais entendu aussi bouleversée. Des sanglots et des lamentations de femmes résonnent en contrepoint. Hector pousse un nouveau cri comme en proie à l'agonie. Je n'ai aucune envie d'entrer dans cette nurserie, mais Achille y va tout droit, la main toujours posée sur le pommeau de son épée. Je le suis. Mes amies troyennes sont là, Hélène, Hécube, Laodis, Théano et Andromaque, mais elles ne remarquent même pas notre arrivée. Hector est là lui aussi dans son armure couverte de sang et de poussière, mais il ne voit même pas son ennemi, Achille, lorsque celui-ci se fige devant le spectacle qui plonge l'assistance dans l'horreur. Le berceau sculpté est renversé. Il est aspergé de sang, ainsi que le sol de marbre et la moustiquaire. Le corps du petit Scamandrios, affectueusement surnommé Astyanax, un an à peine, gît sur le sol, taillé en pièces. Sa tête manque à l'appel. On lui a tranché bras et jambes. L'une de ses mains potelées reste attachée à son poignet, mais l'autre a été coupée. Sa royale grenouillère, sur laquelle sont brodées les armoiries d'Hector, est imbibée de sang. Près de lui gît le corps de la nourrice que j'avais aperçue sur les remparts, puis ici même la nuit dernière, en train de dormir paisiblement. On dirait qu'elle a été attaquée par quelque grand félin, et ses bras inertes sont toujours tendus vers le berceau renversé, comme si elle était morte en tentant de protéger son nourrisson. Tandis que les domestiques se lamentent en fond sonore, Andromaque déclare d'une voix blanche mais terriblement calme « Ce sont les déesses Athénée et Aphrodite qui ont accompli ceci. Ô mon seigneur et époux !» Hector lève la tête, et le visage qui m'apparaît sous son casque est déformé par le choc et l'horreur. Il a la bouche entrouverte, la bave aux lèvres, ses yeux sont ébaudis et cernés de rouge.
« Athénée ? Aphrodite ? Comment est-ce possible ? »
J'ai accouru de ma chambre il y a une heure, quand je les ai entendus parler à la nourrice,
explique Andromaque.
C'est Pallas Athénée elle-même qui m'a dit que Zeus exigeait le sacrifice de notre bien-aimé Scamandrios, ainsi qu'une génisse promise au massacre, a dit la déesse. J'ai tenté de la fléchir, de la supplier de mes larmes, mais la déesse Aphrodite m'a enjoint de faire silence, affirmant que la volonté de Zeus était inflexible. Les dieux, disait-elle, étaient déçus par la tournure que prenait la guerre. Et ils te reprochaient d'avoir échoué à incendier les nefs noires la nuit dernière. Ils avaient décidé ce sacrifice en guise d'avertissement.
Elle désigne l'enfant supplicié.
J'ai envoyé le plus rapide de mes domestiques te quérir sur le champ de bataille. Et j'ai appelé auprès de moi mes amis pour me soutenir dans cette épreuve, ô mon époux. Nous avons attendu ton arrivée pour entrer dans cette pièce.
Hector tourne vers nous son visage hagard, mais ses yeux se posent sur Achille sans le voir. En cet instant, il serait sans doute incapable de remarquer un cobra à ses pieds. Il est aveuglé par le choc. Tout ce qu'il peut voir, c'est le cadavre du petit Scamandrios, décapité, ensanglanté, un poing encore fermé. Puis il dit d'une voix étouffée,
« Andromaque, mon épouse, ma bien-aimée, pourquoi n'es-tu pas morte comme cette nourrice, terrassée alors que tu t'efforçais de préserver notre enfant de la colère des immortels ?»
Andromaque baisse la tête et pleure en silence.
Athénée m'a bloqué sur le seuil au moyen d'un mur invisible pendant que se déchaînait leur pouvoir divin, dit-elle.
Ses larmes inondent sa chemise de nuit, et je vois à présent que le tissu en est imbibé de sang. Sans doute a-t-elle serré contre son corps ce qui restait de son enfant massacré. Aussi irrationnel que cela paraisse, je repense à Jackie Kennedy tel que je l'ai vu sur un écran de télévision par un lointain jour de novembre, alors que j'étais encore adolescent.
Hector ne fait mine ni d'étreindre ni de consoler son épouse. Les sanglots des domestiques montent de plus belle, mais il reste silencieux durant une bonne minute. Puis lève son bras musclé et couturé de cicatrices, serre son poing puissant et gronde.
« Alors, je vous défie, ô Dieu ! Désormais, Athénée, Aphrodite, Zeus, vous les dieux que j'ai servis et honorés durant toutes ces années, durant toute ma vie, vous êtes mes ennemis !»
Et il agite son poing vers le ciel.
« Hector ! » dit Achille.
Toutes les têtes se tournent. Les domestiques hurlent de terreur. Hélène porte ses mains à sa bouche, simulant une grimace de surprise, et Cube pousse un cri. Hector sort son épée de son fourreau et pousse un grondement, arborant une expression quasiment soulagée. « Voici quelqu'un sur qui passer ma colère. Voici quelqu'un à tuer. » Impossible de se méprendre sur ses pensées. Achille lève ses deux mains nues.
« Hector, mon frère dans le deuil, je suis venu ici pour partager ta peine et pour t'offrir mon bras droit dans le combat à venir. »
Le héros troyen, qui se ramassait sur lui-même pour bondir sur le tueur d'hommes, se fige, l'air totalement pris de court.
« La nuit dernière, » reprend Achille sans baisser ses mains calleuses, « Pallas Athénée est venue dans ma tente au cœur du camp des Myrmidons et a tué mon ami le plus cher. Oui, Patrocle est mort de sa main, en portant son cadavre à Olympos pour le jeter en pâture aux vautours. »
Sans lâcher son épée, Hector réplique
« Tu as vu cela ? J'ai parlé avec la déesse et été le témoin de son acte, » déclare Achille. « C'était bien elle. Elle a terrassé Patrocle comme elle a oxy ton fils, et pour les mêmes raisons. Elle me les a exposées elle-même. »
Hector considère son épée comme si son arme, son bras même, l'avait trahi. Achille s'avance vers lui. Les femmes s'écartent pour le laisser passer. Le tueur d'hommes achéen tend sa main droite jusqu'à ce qu'elle effleure la pointe de l'épée d'Hector.
« Noble Hector, mon ennemi, mon frère dans le sang répandu, » murmure Achille. « Seras-tu mon allié dans ce nouveau combat que nous devons mener pour venger les nôtres ?»
Hector lâche son épée et sa lame de bronze heurte le marbre en résonnant. Son pommeau atterrit dans une flaque de sang. Il est incapable de parler. Il avance d'un pas comme pour attaquer Achille, mais lui agrippe farouchement l'avant-bras. Si c'était le mien, il me l'aurait arraché. Et l'empoigne comme s'il s'agissait d'une bouée le sauvant de la noyade. Durant toute cette scène, je n'ai cessé de jeter des regards en coin à Andromaque, qui continue de pleurer en silence alors même que les visages autour de nous expriment le choc et la stupéfaction.
« C'est toi qui as fait cela ?»
lançai-je en silence à la femme d'Hector.
« C'est toi qui as fait cela à ton propre fils pour orienter le cours de la guerre à ton goût ?» Alors même que j'ose imaginer cette horreur, m'écartant d'Andromaque tant elle me révulse. Je sais que c'était le seul moyen. Le seul.
Puis je me tourne vers ce qui reste d'Astyanax, le maître de la cité, le pauvre Scamandrios, et je recule à nouveau d'un pas. Dussé-je vivre un millier, 10 milliers d'années, jamais je ne comprendrai ces gens.
À cet instant, la véritable déesse Athénée, accompagnée de ma muse et du dieu Apollon, apparaît à l'autre bout de la nurserie.
« Que se passe-t-il ici ?»
demande Athénée, qui se dresse avec arrogance de ses 2,50 m, et nous toise d'un air impérieux. La muse pointe son doigt sur moi.
« C'est lui !»
s'écrie-t-elle. Apollon tend son arc d'argent.